Zero Hour Cat Radio Present, Zero Hour Radio, fréquence Polar Noir.
Look at me.
Les rendez-vous de Zero Hour. Action, moteur.
Et nous voici à la troisième facette de votre personnage, Patrick Barr, l'auteur de Polar, ou comment à travers le polar, exprimer à travers une histoire, autre chose. Vous avez écrit jusqu'à ce jour, arrêtez-moi si je me trompe, 6 polars.
Mm-hmm. Tout à fait.
Le premier titre qui me vient en mémoire, c'est Les 13 morts d'Albert Ayler.
Oui, c'est une nouvelle à l'intérieur d'un recueil de 13 nouvelles.
Aux éditions Gallimard.
Voilà, à la série noire.
Le plus important peut-être, La frontière aux éditions du Seuil, qui a obtenu le prix Michel Lebrun, Encre Noire, et le prix Brigada en Espagne, qui a été donc votre premier roman noir. L'attrapeur d'ombre aux éditions du Seuil, La quatrième plaie aux éditions Fleuve Noir, Le chien de Dieu aux éditions Seuil, et toujours aux éditions Seuil, Les orphelins de sang. J'aimerais qu'on se concentre sur ce qui me semble être la pièce fondatrice de Patrick Barr, qui est auteur de polar, le livre La frontière. Est-ce que vous pourriez nous en retracer la genèse, les moments forts et ce qui vous a poussé à écrire ce livre?
Alors, ça commence très, très, très avant, en réalité. Au début des années 80, il y a ce qu'on appelle les radios libres. Elles sont libres avant de devenir privées. Privées de quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, elles sont libres dans un premier temps. Et moi, je suis grand lecteur de polar depuis toujours. Donc, je vais voir une radio qui s'appelait Radio Bebop, près de chez moi, à Joinville-le-Pont. Et je leur propose une émission de blues et de polar. Elles me disent oui, d'accord, allons-y, et nous voilà partis. Et je rencontre, faisant cette émission, tout un tas d'auteurs qui vont devenir des copains au fil des années. Les Déninx, les Jonquets, les Pouilles qui vont devenir des potes. Et en 1986, avec toute une bande, on crée un festival en banlieue parisienne qui s'appelle Jazz et Polar. Voilà. Évidemment, on retrouve la musique, on retrouve aussi ma passion pour le polar. J'aime bien le polar. Pourquoi j'aime bien le polar? Parce que le polar, c'est Manchette qui le dit, mais je trouve qu'il a raison, c'est un style, c'est un genre qui parle de la société comme elle va, et en général quand elle va pas bien. Et moi, ça m'intéresse, c'est une littérature de crise. Et puis, il se trouve que dans ces années-là, et bien avant, dans là, ça a commencé après-guerre, le roman français a divorcé d'Avec le réel pour plonger dans l'autofiction avec le nouveau roman, etc., etc. Donc, du coup, si on veut se plonger dans la complexité du monde, il n'y a plus guère que les écrivains américains ou le polar. Voilà.
Mais le polar n'est-il pas né de la littérature américaine ?
Le polar est indubitablement né de la littérature américaine et non pas britannique. Mais en même temps, on pourrait aussi dire que les États-Unis ont accouché du polar grâce à Balzac, quand même. Parce que c'est là que ça commence. Balzac, pour moi, c'est le premier auteur de polar.
Qui avait écrit Les Tueurs, la fameuse nouvelle, c'est une nouvelle qui fait 10 pages, qui est restée mythique dans la littérature, puisqu'elle a donné l'adaptation de 2, 3 ou 4 versions du fameux film Les Tueurs, dont le plus célèbre sans doute reste celui de Richard Siodmak avec Ava Gardner et Burton Caster. Donc Ernest Hemingway, qui était un des plus grands écrivains, qui reste un des plus grands écrivains américains, avait deux maîtres dans la littérature, il ne le cachait pas, c'était Flaubert avec Madame Bovary et Tolstoï avec Guerre et Paix. Donc encore une fois, je veux dire, le polar s'enracine profondément dans la réalité la plus brute de la vie, pour aller en extirper effectivement les racines invisibles, si on veut faire une image littéraire. Ce qui m'intéresse dans La Frontière, c'est que ce livre, ce polar, c'est plus qu'un livre, c'est un polar, et il prend toutes ses lettres de noblesse, synthétise, me semble-t-il, pratiquement toutes vos grandes aspirations. Premièrement, parce que il se déroule en Amérique du Sud, si je me rappelle bien. Est-ce que vous pourriez nous tracer très brièvement la trame du livre et ce qui se passe et le but que vous aviez en écrivant ce livre ?
Voilà, j'y venais justement. Donc, pour moi, premier polar, c'est Une ténébreuse affaire de Balzac. Le deuxième, c'est Le crime de la rue Morgue de Poe. Mais comme je vous ai dit, le polar, c'est de toute façon ma littérature de prédilection pour tout ce que j'ai raconté avant. Donc quand j'arrive à la frontière américano-mexicaine en 1996... pour réaliser un travail documentaire sur cette frontière. Et je tombe à la fois sur, alors, cette fois, la mondialisation dans laquelle moi je vis et dans laquelle je suis né. On commence à en parler à l'époque, il n'y a pas vraiment d'image. Et moi, ce que je vois, ce que je découvre de cette mondialisation est un cauchemar qui sort de Dickens. Et puis, en plus, forcément, comme dans les romans de Zola, une ou des bêtes humaines qui tuent des femmes. Alors là, je me dis, il y a un avant, il y a un après, la violence de ce à quoi je suis confronté fait céder la digue qui retenait les mots. J'avais écrit une nouvelle, mais bon, j'écrivais surtout des textes documentaires, et à ce moment-là, ce que j'ai devant les yeux m'amène à me dire que ce que je vais raconter, je vais le raconter en photographie de manière documentaire, mais je vais le raconter en essayant d'écrire un roman, plutôt qu'un ouvrage documentaire, une fiction. Parce que les personnages d'encre et de papier, qu'on crée de toutes pièces, s'approchent parfois plus de la vérité par leur humanité que l'énoncé journalistique des faits.
Mentir pour dire la vérité, c'est un petit peu le principe.
C'est ce que j'appelle le mentir vrai. Ce que j'appelle le mentir vrai, parce que un travail documentaire, c'est l'énoncé des faits. Un roman, ou un film, c'est la même chose. Ce sont des gens à qui il arrive quelque chose. C'est les personnages qui sont la clé de voûte d'un roman ou d'un film. Et donc l'histoire s'appuie sur les personnages et pas l'inverse. Et c'est là où tout se crée. Et donc, le barrage qui retenait les mots cède, et la ville de Ciudad Juárez au Mexique fait de moi un écrivain. Je me dis, j'ai trop à raconter pour en faire un ouvrage documentaire. Et ce qui m'intéresse le plus dans ce que j'ai raconté, c'est justement l'humanité des personnages que j'ai croisés et cette dimension qui peut leur être donnée. Je pense beaucoup justement à ce moment-là au raisin de la colère, parce qu'il y a cette dimension-là quand l'auteur des raisins de la colère part sur les routes, il va écrire des reportages pour Life. Donc là, on est dans le documentaire. Mais quand il va rentrer, il va s'enfermer chez lui et il va écrire les raisins de la colère. Et je pense que c'est le même genre de choc. Je me compare pas à ça, parce que le talent exprimé dans les raisins de la colère est bien supérieur. Mais je parle de la nature du choc qui fait qu'on se met à écrire. Voilà, c'est le même genre de choc. La confrontation avec le réel. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, it's like a samba that swings so cool and sways so gentle, that when he passes, each girl he passes goes, ah. Oh, but I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly, but he stays when he walks to the sea. He looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. He doesn't see me.
J'aimerais connaître votre réaction, Patrick Barr, face au défi du 21e siècle que semble poser aujourd'hui Internet. Je voudrais vous poser deux questions concernant ce sujet. C'est votre avis, quelle est la place de l'auteur face à Internet, face à l'industrie exponentielle du plagiat industriel qui se développe de plus en plus? Et par contre, d'un autre côté, la richesse extraordinaire que permet cet outil pour l'auteur, le créateur, le journaliste. La seconde question, je vous la rappellerai plus tard si vous voulez, c'est quel avenir éventuellement pour le texte virtuel, sachant qu'il y a un autre défi, un très grand défi démocratique à relever, c'est que pour la première fois dans l'humanité, nous sommes face à une transmission sans le support du papier pour le livre. Donc la première question, votre opinion en tant qu'auteur face à Internet, face à l'industrie du plagiat industriel et en même temps la richesse fabuleuse que permet ce nouvel outil.
Mais Internet, c'est plus qu'un choc, c'est une révolution industrielle. Donc on vit une révolution industrielle, on est un petit peu comme un tisserand qui avait son petit métier à tisser chez lui à la fin du XVIIIe siècle et qui voit arriver les premières filatures industrielles. Voilà. Alors on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis on sent qu'on va être emporté par un tsunami, une lame de fond que rien ni personne ne peut maîtriser, ce qui est effectivement le cas. Donc j'entends parler par exemple les éditeurs pleins d'optimisme quant aux possibilités de développement de la vente de livres numériques, voilà. Et par moments je les regarde, je me dis mais c'est des ils me font penser à des aveugles au volant d'une Formule 1. Ils se rendent absolument pas compte qu'ils vont aller dans le mur. D'ailleurs, le mur, ils le voient même pas. Et le mur, ça risque d'être que sous 10 ans, ils seront dans le même état que les maisons de disques aujourd'hui, et que ou Google ou Amazon ou un mélange des deux sera propriétaire de la quasi-totalité des contenus éditoriaux de la planète. Voilà. Donc le problème, c'est qu'on peut pas y faire grand-chose, et qu'effectivement, par ailleurs, Internet est un outil de démocratie absolument inédit dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc moi, je suis un petit peu comme tout le monde. Je regarde tout ça. Voilà, j'ai pas de solution toute faite. Ce que je vois en tout cas, c'est que s'agissant de la presse papier, c'est quelque chose de totalement moribond. Qu'aujourd'hui, par exemple, en termes de journalisme, ce qui se fait pour tout ce qui relève de l'investigation, pour tout ce qui relève des affaires qui sortent, etc., ça vient de médias en ligne. La presse papier a vécu son âge d'or, il y a déjà bien longtemps à mon avis. La télé a vécu son âge d'or également, ça c'est fait. Et aujourd'hui, effectivement, c'est Internet. Pour la première fois, c'est vrai, on est dans quelque chose d'immatériel, il n'y a pas de support. Pas de support papier, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'en sais rien. J'en sais rien, mais je me dis quand même que au fond, l'homme est l'homme, et qu'il y a au moins une chose qui ne va pas changer dans les besoins de l'homme. Il en a toujours eu besoin, il en aura toujours besoin pour survivre en tant qu'individu et en tant qu'espèce, les histoires. Et donc Internet, tradition orale, contes, mythes autour du feu, à la veillée, devant une imprimerie, assis avec un livre ouvert, qu'importe, l'être humain en tant qu'individu, en tant que société, a besoin des histoires pour sa survie. Voilà. Ça va pas changer. Set upside down, you're turning me. You're giving love instinctively. Round and round, you're turning me. Upside down. Boy, you turn me inside out. And round and round. Upside down. Boy, you turn me. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and
il y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire que cet outil extraordinaire qui nous permet de transmettre une information à vitesse grand V, une vitesse totalement disproportionnée comparée à tout ce qu'on a pu connaître dans la transmission de données jusqu'à présent, avant l'invention d'Internet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre danger qui se profile derrière? C'est que on le voit éventuellement avec des Julian Assange ou d'autres Kim.com qui se veulent des pourfendeurs du libre partage en apparence, du moins c'est la façade qu'ils se donnent, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, ça c'est un autre débat. Mais est-ce que le danger à long terme ne serait pas de voir apparaître une sorte de Citizen Kane de l'informatique pour la presse, et alors ça pourrait être un danger pour le reporter, pour les journalistes?
La concentration, oui, c'est un danger. C'était déjà un danger quand on était avec le papier. Ça restait un danger sans doute encore plus grand avec la télévision. Et ça en est encore bien supérieur avec le web, bien entendu. Ce serait une sorte de super Citizen Kane. Bon, pour l'instant... les dictatures les plus dures de la planète ont beaucoup de mal à maîtriser Internet et ce qui s'y fait, ce qui s'y dit et ce qui s'y montre. Ce qui me fait penser qu'on a encore quelques temps devant nous en termes de liberté d'expression. Voilà. Après, Internet, vous le disiez, c'est un outil avec ce site particulier que, un petit peu comme on possède ce qui nous possède, on se sert de l'outil, mais l'outil nous façonne aussi. Et donc voilà, c'est encore plus vrai, je crois, pour un outil de la taille d'Internet. Il y a des moments où c'est extrêmement utile. En même temps, il y a une forme d'addiction au support qui fait qu'à partir d'un certain point, ça devient un tumulte, sinon un tintamarre. Dont il est bon de temps en temps de s'extraire, tout comme on décide qu'on éteint son poste de radio ou qu'on ferme sa télé, pour écouter le bruit qu'on a à l'intérieur de soi-même. Voilà. Tant qu'on conserve nos facultés d'esprit critique intactes, je crois qu'on arrivera à peu près à faire face. L'être humain est capable de s'adapter en tout cas à des situations tellement différentes depuis ses origines que bon, pourquoi pas celle-là. Moi la vraie question qui se pose, c'est plutôt celle, pas seulement de la démocratie, mais du bien commun en réalité. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire pour que ça puisse donner naissance à une utopie du bien commun et non pas à un accaparement ou à un cumul d'intérêts particuliers. Voilà, c'est ça qui, à mon sens, est le véritable enjeu d'Internet.
E di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful. Ram of you, champs, champs. Da-di-do-di-do, chibum, chibum, boom. Da-di-do-di-do, chibum, chibum, boom. Da-di-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful. Dream of you, James, James, James. Via, vieni via con me.
entro in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entro e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Lamb of you, chips, chips. Dati do di do chip boom chip boom boom. Dati do di do chip boom chip boom boom. Dati do.
Il y a effectivement une dernière notion, ou une autre notion, dernière je ne sais pas, mais en tout cas une autre notion importante qui est liée à Internet, en dehors des autres dangers qu'on vient d'évoquer, ou des autres bénéfices qu'on vient d'évoquer, c'est le terme et la notion de mémoire. Pour la première fois, nous avons entre les mains un outil qui nous permet de contenir dans notre poche l'équivalent d'une bibliothèque entière. Si demain, tous les livres disparaissaient, et si on ne pouvait plus se connecter à Internet, est-ce que ce ne serait pas une autre forme de danger pour le totalitarisme ou pour une tentation vers le totalitarisme?
Je vais utiliser, pour répondre à ça, une métaphore, une parabole, appelez ça comme vous voulez, mais également, je vais convoquer la science pour ça. Quand on court, on sécrète des endorphines qui nous donnent du plaisir dans l'effort. Pourquoi ? Parce que quand on court, au départ, on court pour échapper à des prédateurs. On n'a pas de crocs, on n'a pas de poils, on n'a pas de griffes. Donc, à part la fuite, au départ, on n'a pas grand-chose. Donc, pour récompenser le corps, on sécrète des endorphines. Quand on ment, on sécrète les mêmes endorphines que quand on court. Tout simplement parce que quand on ment, en général, c'est pour se sauver. C'est pour survivre. C'est pour échapper à une situation difficile.
Ou pour l'intérêt.
Quand des gens écoutent quelqu'un raconter une histoire, ils sécrètent les mêmes endorphines que quand quelqu'un ment ou quand quelqu'un court. Et celui qui raconte les histoires sécrète les mêmes endorphines que celui qui les écoute. Parce que comme le mensonge, comme la fuite, les histoires nous permettent en tant qu'espèce de survivre, d'apprendre et d'évoluer. Et donc, peut-être qu'un jour, effectivement, on n'aura plus de livres sur le papier. C'est déjà arrivé avant, hein. L'humanité, c'est quelque chose de vieux. On a vécu sans les livres. On peut très bien revivre sans les livres. Peut-être qu'un jour, toutes ces histoires-là seront toutes sur Internet, et puis un jour, peut-être qu'il va arriver qu'on puisse plus se brancher sur Internet. On ne perdra pas les histoires. Parce qu'on en a besoin. Si on perd les histoires, on cessera d'exister en tant qu'espèce. On en a aussi besoin que de manger, de respirer, de boire, de dormir. De la même façon que l'art nous empêche de devenir fou, il n'y a pas une société qui existe sans art. Ça n'existe pas. Aucune société n'a jamais existé sans art. Il n'y a pas de société qui existe sans histoire, sans mythe. Et je crois pas que ça puisse arriver.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us, we can make it if we try, just the two of us.
Patrick Barre, photographe, reporter, auteur de Polar Noir. Quelque part, vous êtes un détecteur des traces de la mémoire. Vous allez chercher dans la mémoire des peuples, dans la mémoire des continents, ce qui fait que le monde tient, est uni, communique. C'est le fondement même du journaliste et c'est le fondement même d'un auteur. En parlant de mémoire, je vais vous poser la question subsidiaire que je pose à chacun de mes invités, c'est éventuellement, si vous aviez à faire un choix, parmi tous les auteurs de polar qui ont pu marquer votre enfance, qui vous ont marqué en tant qu'écrivain durant votre parcours, ou aujourd'hui encore, quel auteur, quel héros mettriez-vous aujourd'hui en première place?
Je pourrais pas en mettre qu'un, déjà, pour commencer, parce que ils sont là à différents titres.
C'est impossible, oui.
Il y aurait Thierry Jonquet, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que sans lui, je serais pas devenu écrivain, et qui m'a aussi beaucoup influencé par ce qu'il a écrit. Et il y a le roman français du 19e siècle, Balzac, Flaubert, parce que ça, effectivement, c'est l'un des piliers du polar. Et puis après, il y a les très grands, il y a Chandler, évidemment, dans les auteurs de polar. Pour moi, ça compte beaucoup, Chandler. C'est très important, Chandler. Voilà. Donc, on va dire que les quatre. Balzac, Flaubert, Jonquet et Chandler, c'est les quatre. On va dire auteur de polar, puisque voilà, on va dire auteur de polar après tout. On va appeler Flaubert un auteur de polar et Balzac aussi.
Dans la littérature, est-ce que vous auriez éventuellement un personnage privilégié dans la bande dessinée qui est aussi une littérature moderne?
Je lis pas tellement de BD au fond, donc c'est un peu difficile pour moi de répondre à ça. Je suis pas grand lecteur de BD.
Quel étrange paradoxe, parce que vous êtes photographe et écrivain, et la bande dessinée, qu'est-ce que c'est sinon l'image et le dessin en même temps?
C'est vrai, et en même temps, je suis pas grand lecteur de bande dessinée, c'est drôle, mais c'est comme ça. Alors c'est difficile pour moi de répondre à ça. Par contre, ce serait beaucoup plus facile de répondre si vous me demandiez de nommer des auteurs qui pour moi sont très importants et qui ne sont pas des auteurs de polar.
Je ne vous poserai pas la question.
Voilà. Mais en BD, non, qu'est-ce que j'aime bien en BD? Il y a un auteur de BD français que j'aime bien. Et justement, il se trouve que son personnage est un photographe, c'est Larsonnet. J'aime beaucoup ce que fait Larsonnet. J'aime beaucoup sa forme de désespoir. C'est vraiment très très beau. Bon, bien sûr, après il y a Corto Maltese, mais ça c'est très classique. Le côté bourlingue, le côté voyage, le côté évasion, la beauté du trait, enfin voilà. Mais dans les nouveaux, dans les contemporains, ben, finalement, définitivement, moi j'aime bien des gens comme Larsonnet.
Nous resterons sur cette impression.
D'accord.
Patrick Barre, je vous remercie de cet entretien, de cette rencontre et de cette interview. Nous sommes à Paris dans le 13e, juin 2013, Gilles Astor pour 4 secrets, The Original One. Merci Patrick.
Merci. That's why I'm following you.
knowing my right foot from my left, my hat from my glove. I'm too misty and too much in love. Too misty and too